L'espace, c'est la surprise. La science, c'est la surprise. Donc, je crois qu'il faut continuer à explorer et laisser la nature nous surprendre.
En fait, ouais, les expériences qu'on fait dans nos labos ou qu'on prépare, en fait, elles sont là-haut, dans ce petit point qui passe.
Un projet de telle ampleur, j'aurais pas pensé en être là.
Depuis toujours, l'espace nous intrigue. Du décollage des fusées au trou noir, en passant par les premiers pas de l'homme sur la Lune, ou encore la question d'une possible vie extraterrestre, l'univers est rempli de mystères passionnants. Peut-être que toi aussi, tu as grandi avec les aventures de Tintin sur la Lune, regardé en boucle Star Wars ou Interstellar, ou même rêvé de devenir astronaute en regardant le ciel étoilé la nuit. Dans cet épisode, on part à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont fait du spatial leur métier. Des personnes comme toi et moi, qui travaillent bien ici, sur Terre, et qui continuent pourtant de rêver la tête dans les étoiles.
Au fait, le podcast scientifique à l'écoute de tes questions.
4, 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Avril 2026, trois hommes et une femme embarquent pour la mission Artemis 2, une des missions les plus incroyables jamais conçues. 9 jours pour rejoindre l'orbite lunaire, aller là où aucun humain n'a jamais été, à plus de 400 000 km de la Terre. Leur objectif, valider le fonctionnement du vaisseau spatial en vue de retourner sur la Lune d'ici 2030. L'humain dans l'espace, c'est un rêve un peu fou qui s'est transformé en une réalité au fil de l'histoire et des progrès technologiques. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, elle est toute simple. Au fait, qu'est-ce qu'on va faire dans l'espace ? Tout d'abord, le domaine spatial est essentiel de nos jours pour bien des raisons, comme l'expliquent André Fousfa et Anne-Sophie Libert, tous deux professeurs à l'université de Namur.
On ne peut pas faire l'économie du spatial, on ne peut pas faire l'économie de ne pas aller dans l'espace, pas faire l'économie de ne pas avoir d'astronautes, parce que, outre le symbole national, il y a plein de choses sur le côté en termes, je vais dire, de diplomatie scientifique, mais en termes de retombées industrielles, en termes de challenges qui sont associés, etc. C'est un moteur sociétal et un moteur technologique. Il y a à la fois des choses qu'on utilise dans notre vie quotidienne qui sont des technologies dérivées du spatial, mais même directement, tu ne fais quasiment plus rien sans service spatial. Satellitaire. Ça va par exemple du positionnement par satellite, qui est peut-être le plus évident. Tu as aussi, bon, par exemple, tout ce qui est prédiction météo, aurore boréale, mais aussi tempête géomagnétique, et les prédictions météo, mais aussi les prédictions des catastrophes naturelles, le suivi des catastrophes naturelles, le suivi de la pollution, des aspects sécuritaires également, par exemple.
Le spatial, je pense que c'est un grand catalyseur d'innovation. Donc c'est vraiment grâce au fait qu'on arrive à rassembler autant de chercheurs autour de la table pour un même objectif, qu'on arrive à faire des énormes progrès technologiques. Et donc évidemment que ça a un coût, mais tout ce coût est répercuté sur la société. Le plus grand moment dans l'histoire d'avancement technologique, c'est peut-être lorsqu'on a été sur la Lune, parce qu'on a dû mettre au point des technologies, des matériaux qui n'existaient pas avant et qui maintenant sont utilisés dans le quotidien des pompiers, de tout un chacun dans sa cuisine par exemple.
Et ces technologies, elles sont bien plus nombreuses qu'on ne le pense. La couverture de survie, le matelas mémoire de forme, la nourriture lyophilisée, mais aussi les capteurs photo de notre téléphone.
Ça existait depuis longtemps, mais pour pouvoir les embarquer dans un téléphone portable ou un smartphone, il fallait les miniaturiser. Et en fait, miniaturiser, diminuer la consommation d'énergie, les rendre plus robustes au choc, à l'humidité ou à l'environnement, etc. Eh bien ça, ça a été rendu possible parce qu'on avait besoin, on avait à peu près les mêmes besoins pour le spatial. Et donc on a commencé à miniaturiser ces capteurs pour des missions spatiales, typiquement les premiers rovers martiens début des années 90. Et le choix technologique qui a été fait dans les smartphones il y a une petite vingtaine d'années a été de reprendre cette technologie-là qui avait été développée par le spatial.
Au-delà des intérêts technologiques, une autre raison qui nous attire vers l'espace, c'est la recherche scientifique. À quelques 400 km au-dessus de nos têtes, la Station Spatiale Internationale, aussi appelée ISS, accueille en permanence un équipage international d'astronautes. Une part importante de leur quotidien consiste à réaliser un nombre impressionnant d'expériences scientifiques construite spécialement pour l'ISS.
Donc c'est un laboratoire spatial qui a permis de tester toute une série de technologies dont certaines ont été redéveloppées. Donc, par exemple, sur l'ISS, pourquoi faire du vol habité, puisque c'est du vol habité, c'est dangereux, c'est difficile. Vivre dans l'espace, dans cet environnement qui est extrêmement hostile, et vivre longtemps, puisque la durée moyenne est quand même de 6 mois pour chacune des missions, mais ça a permis de développer toute une série de connaissances sur la physiologie humaine, par exemple sur l'effet des radiations, sur l'effet de l'ostéosporose accélérée chez les astronautes, etc., mais aussi sur les systèmes de vie, les systèmes de survie, le recyclage de l'eau, le recyclage de l'air.
Toutes ces connaissances sont bien utiles pour pouvoir vivre là-haut dans l'espace. Alors si on pense avant tout au vide, l'espace est bien plus hostile encore, comme nous l'explique Anne-Catherine Osquin, professeure de physique à l'Université de Namur.
Un des plus gros ennuis dans l'espace, c'est plutôt les radiations, en fait, puisque sur Terre, on est quand même très bien protégé. Parce que d'une part, tu as une couche d'atmosphère qui va absorber plein de particules en fait, qui viennent de l'espace. Et aussi, le champ magnétique de la Terre va permettre de piéger des électrons, puisque ce sont des particules chargées, donc tu peux les piéger en fait, dans les lignes de champ. Et tout ça ne va finalement pas impacter la vie à la surface de la Terre. Donc on est quand même très protégé. Une fois que tu sors de l'atmosphère et des lignes de champ de la Terre, tu n'es plus protégé, en fait, en tout cas plus autant. Donc, si on se pose la question des voyages interstellaires et compagnie, bah là, il faudrait peut-être se dire, oui, mais en attendant, combien de doses de radiation est-ce qu'on risque de prendre, en fait, pendant un voyage ?
Comprendre les effets de l'espace sur le vivant est aujourd'hui l'un des grands défis de la recherche. Si l'humain est encore loin de pouvoir vivre sans crainte dans l'espace, d'autres organismes jouent avec l'impossible. C'est notamment le cas du blob, cet organisme unicellulaire qui n'est ni un animal, ni un champignon, mais qui possède pourtant des propriétés exceptionnelles. Boris Espels est biologiste à l'université de Namur, et pour faire simple, son métier à lui depuis quelques années, c'est d'envoyer des expériences de biologie dans la Station Spatiale Internationale. Alors, quand il a entendu parler du blob, sous son petit nom scientifique Physarum polycephalum, il n'a pas hésité et a embarqué Anne-Catherine Osquin avec lui.
On s'est rendu compte que cette bestiole était aussi extrêmement résistante, et on s'est dit, essayons autre chose. Et on a fait ce projet qui s'appelle BiBlob, donc pour Belgian Blob in Space, qui a été sélectionné parmi les 3 expériences qui vont accompagner Raphaël Liégeois.
Raphaël Liégeois, c'est le prochain astronaute belge qui s'envolera bientôt dans l'ISS. Sélectionné par l'Agence spatiale européenne en novembre 2022, il deviendra alors le 3e Belge à se rendre dans l'espace, après Dirk Vreemoot en 1992 et Frank De Wijn au début des années 2000. Il partira donc avec une expérience 100% namuroise préparée par l'équipe de Boris.
Quand on veut aller dans l'espace, c'est toujours extrêmement compliqué et il y a une règle qui est assez simple, c'est tout ce qui est simple sur Terre est très compliqué dans l'espace. Donc on a dû imaginer une idée qui était la plus simple possible à réaliser. Si je simplifie au maximum, à l'extrême, on doit donner un échantillon que l'astronaute met dans sa poche, il arrive dans l'espace, il appuie sur un bouton, ça se fait tout seul, il le remet dans sa poche et revient sur Terre. Bon, ça c'est le monde parfait qui n'existe pas. Là, Raphaël Liégeois, il va avoir 10 petits sachets, et donc on a un milieu de culture, on a notre physarum polycéphalum qui est sec, et c'est séparé par une pince. Donc le travail de l'astronaute en tant que tel, c'est d'ouvrir pour mettre en contact le milieu de culture et physarum polycéphalum, vérifier que tout ça fonctionne. Il le laisse dans une boîte pendant 24 heures dans l'ISS, il regarde, il dit « ok, ça a poussé, oui, non », et puis il le met dans un congélateur, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de capturer la réponse moléculaire dans l'espace.
Et donc ici, l'idée d'étudier des organismes comme le blob, c'est d'essayer de voir quelle est la stratégie que lui, il adopte pour pouvoir résister au temps, en fait. Et donc de là, c'est tout un tas de mécanismes à essayer d'étudier, mais tu peux peut-être trouver des stratégies pour protéger l'humain, en fait.
Travailler sur une expérience en lien avec le spatial, c'était aussi le rêve d'Emeline. Cette étudiante en master en physique a la chance de contribuer au projet BiBlob, une aventure incroyable pour elle.
Pour mon projet de recherche, je me suis basée plus sur la résistance aux hautes températures et aux radiations. C'est vrai que comme ça, on ne se rend pas trop compte. Et puis c'est quand on raconte autour de nous, on nous dit « Waouh, mais c'est incroyable !» Enfin, c'est un projet génial. Et se dire qu'en tant qu'étudiant, on peut contribuer à ça, c'est aussi gratifiant de se dire de s'inclure dans une telle expérience.
Mais si maintenant, on rêvait de s'aventurer encore plus loin, de sortir de notre système solaire et d'explorer les mystères de l'univers? Mais au fait, c'est quoi concrètement l'univers?
Ok, un petit cours de cosmo comme ça.
Évaline Dubois, docteur en mathématiques et chercheuse en philosophie des sciences.
L'univers, qu'est-ce que c'est? Bah déjà ça, historiquement c'est très intéressant, puisque ça n'a pas été la même chose au fur et à mesure du temps. L'univers, il y a cette côté du bah, « c'est le tout ». C'est le monde. Alors, il y a eu un moment pour lequel le monde, c'était ce qu'on pouvait voir, ou bien c'était la Terre et une sorte de couche atmosphérique autour. Bon, très vite, on a vu qu'il y avait des étoiles et des planètes, et que donc ça devait être quelque chose de beaucoup plus grand que notre petit espace de vie à nous. Et puis, l'univers grandit conceptuellement quand on se rend compte de la distance effarante qu'il y a entre nous et les étoiles, et quand au début du XXe siècle, on se rend compte que y a des amas d'étoiles qu'on appelle des galaxies, et on est dans une galaxie, il y en a d'autres. Et donc, l'univers va grandir en tant que concept au début du XXe siècle.
Rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, on dénombre quelques centaines de milliards d'étoiles. Et des galaxies dans l'univers, eh bien, on estime qu'il y en a des centaines de milliards aussi. Et comme si ces nombres invraisemblables ne suffisaient pas, une observation au début du XXe siècle va chambouler notre vision de l'univers.
On a une mesure comme quoi les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc non seulement l'univers est très très grand, mais en plus il semble être en train de grandir. Ce qui a permis de grands chocs et mathématiques, et physiques, et philosophiques, de dire bah alors ça veut dire que c'est beaucoup plus grand que prévu, et ça grandit, d'où la question de ça grandit dans quoi? Bien, a priori ça grandit dans rien, puisque c'est le tout. Donc il n'y a rien ailleurs du tout, si vous mettez tout dans un paquet, il ne peut plus rien avoir hors du paquet. Et donc c'est quelque chose qui s'étend. C'est les distances en fait qui grandissent. L'analogie le plus souvent c'est le ballon qui gonfle. Vous dessinez des petits points sur un ballon de baudruche et vous gonflez le ballon. Mmh. Les points vont s'écarter les uns des autres, mais en soi, vous n'avez pas augmenté la matière de ballon. Enfin, le caoutchouc est toujours là.
Caché dans cet univers en expansion, il existe des objets célestes aux propriétés incroyables, les trous noirs. Alors en vrai, ce n'est pas du tout un trou, mais bien un corps très lourd et très dense, très compact. Pour te donner une idée, si la Terre était un trou noir, toute sa masse serait comprise dans une petite bille. Avec une telle densité, même la lumière ne peut s'en échapper. Mieux comprendre ces trous noirs, c'est le travail au quotidien de Charles Modera, doctorant à l'université de Namur.
Et moi, ce que j'étudie, c'est un très gros, un trou noir supermassif, autour duquel orbite un trou noir stellaire. Et donc, le fait que ça orbite, ben, ça va déformer l'univers à côté de lui, parce que ces objets sont compacts. Et parce qu'ils sont compacts, parce que j'ai beaucoup de masse dans un tout petit espace, ben, je vais réellement déformer l'espace-temps, qu'on peut voir un peu comme un tissu, et cette déformation, elle va se propager dans l'univers. Et ce que j'essaie d'étudier, c'est ces déformations qu'on va pouvoir détecter dans 10 ans, normalement, via des télescopes qu'on enverra dans le ciel. Je suis fasciné par le fait que, en étant sur Terre, en sortant à peine de l'attraction terrestre, on puisse modéliser, on puisse étudier, on puisse prédire les mouvements, ou en tout cas ce qu'on observe, même s'il y a encore plein d'inconnus, et même s'il y a des théories qui invoquent, par exemple, la matière noire ou l'énergie noire, qui sont des choses tout à fait que personne ne comprend. Et donc c'est passionnant parce qu'on est arrivé à construire, par les maths, par la physique, des modèles qui fonctionnent très bien, qui nous permettent de comprendre plein de choses, ou de prédire plein de choses. Et d'un autre côté, que ces modèles sont remplis de choses dont on ne sait même pas ce que c'est.
C'est ça aussi la beauté de l'espace. Des découvertes incroyables à toutes les époques de l'humanité, et pourtant encore tant de mystères à découvrir. Et bonne nouvelle, le spatial se retrouve dans tous les domaines, comme le rappelle André Fousfa.
Il faut bien se rendre compte que le domaine spatial, c'est un domaine d'activité humaine. Tous les domaines, je vais dire toutes les branches d'activité conventionnelle sont représentées dans le spatial. C'est pas uniquement pour des astronautes ou des scientifiques ou des ingénieurs, c'est aussi pour des métiers, et pas que les métiers techniques, c'est aussi pour des métiers qui sont juridiques, de l'ordre du business, mais aussi de l'ordre de l'éthique, de la communication, de l'imaginaire, la fiction par exemple. Donc tu vas retrouver dans ce domaine d'activité plein d'activités, de métiers humains qui sont associés à l'espace. Donc c'est une aventure en fait, le spatial, et tu déploies dans l'espace ce domaine d'activité qui va en fait nourrir les autres domaines d'activité sur Terre, qui ne peuvent plus se faire sans le spatial, mais qui recouvrent donc pas mal de métiers, dont certains sont nouveaux, émergents, d'autres vont émerger, etc. Donc c'est une aventure qui devient maintenant, prend place dans le quotidien, en fait, parce qu'on ne peut plus se passer du spatial.
L'espace est fascinant et les nombreux métiers qui en découlent le sont tout autant. On l'a vu, certains étudient la biologie, d'autres cherchent à comprendre comment le corps humain réagit aux radiations cosmiques, quand d'autres encore remontent le temps pour comprendre l'émergence de l'univers. Ce qui relie toutes les personnes rencontrées dans ce podcast, c'est cette curiosité scientifique, l'envie d'apprendre, mais aussi de transmettre leur passion. Alors, si toi aussi, tu es intéressé par les études et les métiers en lien avec le spatial, n'hésite pas à te renseigner, à rencontrer des passionnés, à poser toutes tes questions et surtout, à continuer d'éveiller ta curiosité. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast sur le thème passionnant de l'espace. Merci à André Fosfa, Anne-Catherine Osquin, Emeline Berger, Boris Elspils, Charles Modera, Anne-Sophie Libert et Evaline Dubois d'avoir contribué à cet épisode. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au fait.
Au fait, un podcast réalisé par le Confluent des Savoirs et le service audiovisuel de l'Université de Namur, avec le soutien de la Wallonie.